I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Cette semaine dans Silence on joue pour la 5e émission de cette 11e saison de Silence on joue. Non, je le fais peut-être pas chaque fois, je sais plus. Bref, nous allons parler c'est une émission un peu spéciale parce que nous allons parler de vieux jeux. On va pas faire une limite, ce serait presque une émission rétro, mais non, ce n'est pas une émission rétro parce que les jeux dont on va parler datent de 2011, 2015, voire même de 2016, mais ils reviennent dans l'actualité parce qu'ils sont portés sur Switch. Ça pourrait être juste un détail, ça pourrait être voilà, un portage sur une nouvelle console, ça arrive et tout ça, sauf que non, la Switch change beaucoup de choses, change peut-être même le rapport au jeu, on en parlera. Donc on va parler de Doom, de Skyrim, de L.A. Noir et de Rocket League, même s'il y en a d'autres comme Rayman Legends ou Stardew Valley ou d'autres qui vont être portés sur la Switch. Bref, le reste du programme, vous le connaissez, le et puis toujours pas de Monsieur Fall. Mais bon, on va prendre ces nouvelles. Bref, j'ai le plaisir quand même d'accueillir Erwan Iguinen des Arocs, un de mes chroniqueurs favoris quand même si ça fait très longtemps qu'on ne s'est vu, mais quand même, hein, tu vas revenir.
Je vais essayer de trouver mon rythme. Enfin,
exactement. Voir. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Et puis voilà, on va faire l'émission à deux parce que c'est aussi bien de faire des émissions à deux. On va commencer d'ailleurs avec toi avec des nouvelles pas forcément hyper rassurantes de Telltale.
Oui, de Telltale qui est ce studio américain créé par des anciens de LucasArts qui s'était spécialisé dans le jeu d'aventure, qui a tâtonné pendant des années et qui, avec The Walking Dead, avait trouvé une espèce de formule magique. Après, ça s'est un peu répété, les jeux sont un peu multipliés, les licences plus ou moins réussies. Et là, ils suppriment 90 emplois sur 400.
C'est ça, donc 25%, un peu moins de 25% d'effectifs. Et surtout, enfin voilà, ils baissent la voilure, quoi. Ouais. Enfin, il baisse la voilure. C'est ce que tu as dit, c'est énormément de jeux, énormément de licences, surtout aussi.
Ouais. Ça se répétait énormément dans les systèmes. Enfin, ces dernières années, on a eu du Batman, on a eu du Minecraft Story Mode, il y a eu Borderlands qui était plutôt un des très bons, il y a eu là récemment les Gardiens de la Galaxie, enfin j'en oublie, il y en a eu plein.
Quand on voit ce qui s'est passé à l'intérieur de Telltale, il y a eu des articles qui se sont intéressés à ça. C'est vrai que ce qu'ils disent, c'est que il y avait plein de problèmes et techniques parce que c'est le même moteur un petit peu amélioré qui sert depuis The Walking Dead. Il y a des détails un peu, des anecdotes qui sont assez marrantes. C'est-à-dire que dans ce moteur, en fait, par exemple, la physique n'était pas implémentée. C'était peut-être un détail, mais quand un scénariste disait « Ouais, là, ce serait pas mal que le livre tombe de l'étagère », en fait, il fallait animer ce livre pour qu'il tombe sur l'étagère et pas juste comme dans les moteurs Unreal ou Unity, où dire « Hop, tu mets un mouvement et puis après, la chute est gérée par le moteur ».
Ce qui peut expliquer quelques flottements dans les séquences d'action, entre guillemets, voilà, qu'on peut avoir dans certains jeux.
Exactement. Et puis aussi, il y avait ce problème des licences, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de jeux propres à Telltale. Enfin, c'était même si c'est pas leur spécialité. Finalement, The Walking Dead est une licence, etc.
Oui, au départ, ils ont repris justement des licences anciennes du LucasArts, du Sam & Max, ouais, du Monkey Island, et ça, c'était. Ça commence à dater pas mal. Ouais,
et pour le coup, en fait, ça obligeait des allers-retours avec les ayants droit, avec des choses comme ça qui ont compliqué le truc. Et puis cet essoufflement dont on a parlé.
Ils font du Game of Thrones ou du Batman. Enfin, j'imagine qu'ils font pas tout à fait ce qu'ils veulent non plus avec la licence.
Exactement. Et puis on a entendu aussi parler, hein, suite à cette annonce, de l'organisation même de Telltale, qui était très problématique, notamment avec un abus absolument insupportable de ce qu'on appelle dans le milieu du jeu vidéo le crunch time, ouais, c'est-à-dire à quelques mois de la sortie, tu fais plus tes horaires, tu comptes plus tes heures, tu dors sur place, tu verras ta famille un autre jour et ce genre de choses. Et ça crée quand même une ambiance assez catastrophique au sein de Telltale. A priori, ce qui est qu'ils ont communiqué, c'est qu'ils ont conscience de ça et que c'est en train de changer. Ils ont déjà mis en place des nouvelles manières de travailler. Et donc là, pour l'instant, ils n'ont plus que deux titres en préparation, c'est-à-dire The Walking Dead, donc la saison finale de la série, et la deuxième saison de The Wolf Among Us, qui était arrivée, c'était la deuxième d'ailleurs, c'était la deuxième série à arriver après The Walking Dead, qui est donc cette adaptation de ce comics absolument fabuleux, qui est fable d'ailleurs, c'était bon. Involontaire, mais bref. Voilà, donc on va suivre. Moi, j'ai toujours beaucoup d'affection finalement pour Telltale, parce que je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire avec le. Finalement, sans Telltale, il y a plein de choses qui ne seraient sans doute pas arrivées. Des jeux comme Oxenfree, des jeux comme plein de nouvelles façons de concevoir la narration dans le jeu vidéo. Donc j'ai toujours beaucoup d'affection pour ce qu'ils font, et puis aussi un ton adulte, hein, et puis des thématiques parfois dures.
Après, c'est vrai qu'il y a certains des créateurs importants de la première saison de Walking Dead qui sont partis, qui sont allés faire Firewatch, Firewatch qui prenait certains éléments de la formule Telltale pour tenter autre chose. Alors, Telltale, c'est quand même beaucoup, beaucoup répété. Même s'il y a moi des choses que j'aime bien, y compris dans le dernier Gardien de la Galaxie ou dans le Batman qui a été très critiqué, dans le fait de jouer Bruce Wayne, il y a des choses qui m'intéressent. Mais voilà, ça s'est quand même beaucoup répété.
C'est clair. Et oui, tu disais, ne serait-ce que par la manière dont ils ont essaimé avec leurs salariés qui sont allés ailleurs. Ce que tu disais sur Firewatch, je crois qu'il y a d'autres salariés qui sont partis, je ne sais plus pour quel jeu, mais bon, bref, on ne va pas. Donc voilà, on va suivre quand même, on va continuer à suivre ce que fait Telltale, et j'espère pour eux qu'il y a aussi ce truc où ils pourraient peut-être prendre un moteur générique. Unity, c'est pas mal. Il y a des choses qui sont.
Pour porter d'une console à une autre, parce que techniquement, ça n'a pas toujours été au top. Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont testé la version Wii de Retour vers le futur, mais il ne vaut mieux pas les repasser. C'était il y a longtemps, il y a prescription.
C'est clair. Le com des com de la semaine dernière, où nous parlions d'Assassin's Creed Origins. Alan Sen qui nous dit, concernant Assassin's Creed, je suis en partie d'accord avec vous, sauf sur un épisode, Syndicate est vraiment un bon Assassin's Creed et les jumeaux sont vraiment intéressants. Alors,
je suis assez d'accord. Moi, j'avais retrouvé du goût un peu pour Assassin's Creed avec Syndicate, mais un peu dans un côté non événementiel. C'est-à-dire que là, je retrouve le côté Assassin's Creed 2, Florence, vraiment, on en prend plein la vue. Syndicate, il y avait
Sous le radar,
peu comme ça, quoi.
Mais peut-être que j'ai pas persévéré assez, mais je sais pas, il y avait un truc, alors que pourtant cette époque Londres victorien m'intéresse, enfin c'est, mais je sais pas pourquoi j'ai pas.
Il y avait beaucoup de jeux aussi sur la même époque, enfin il y avait The Order,
Bloodborne, on commençait à fatiguer de fait, hein. Bref, il continue, le pire de la série est pour moi et de très loin le Unity, hein, qui est vraiment catastrophique à tous les niveaux, le seul bon point étant la ville de Paris. Il y a aussi le Assassin's Creed Libération qui n'était pas terrible à cause du système de costume par rapport à la méta-histoire. J'aime bien ce commentaire d'Alan Sen parce qu'il va pas un peu à l'encontre de ce qu'on a dit. Par rapport à la méta-histoire, j'ai une vue complètement opposée à la vôtre. Pour moi, c'est le cœur des Assassin's Creed. Elle se doit d'être présente. Le vrai souci, c'est que Ubisoft, après la mort de Desmond dans le 3, n'a pas continué à l'utiliser sérieusement et à la transformer, en bonus dans les jeux suivants. Je trouve ça très dommage. D'ailleurs, concernant la méta-histoire, je spoil un tout petit peu. En fouillant dans l'ordi de Leila, on voit que le film Assassin's Creed est bien intégré à l'univers du jeu et que Watch Dogs est aussi dans le même univers. Et ce dernier point a un potentiel énorme pour moi, qui serait de faire enfin un Watch Dogs où le but est de faire tomber Abstergo en exploitant toute la mythologie des Assassin's Creed. Ça, je pense que ça verra.
Il paraît que les lapins crétins, c'est dans le même univers aussi, mais bon, un jour ça va être révélé, ça va être fou.
Sinon, j'attends aussi beaucoup de Patrice Desilets et de son Ancestor, qui a l'air de reprendre les bases du concept de l'animus qu'il avait créé pour Assassin's Creed. Ça commence quand même un peu à ressembler à du Vaporware,
Patrice Désilets.
J'aime beaucoup ce créateur, donc qui est le père fondateur du premier Assassin's Creed, mais qui est parti d'Ubisoft pour rejoindre ce truc qui s'est fermé à Montréal, THQ, quelque chose dans le genre, et qui a fermé, et donc voilà, mais qui est en mode développeur indépendant en ce moment. Bref, Stonganeuf qui revient sur une petite remarque que j'avais glissée en cours d'émission. Pour l'indicateur de luminosité, je mets aussi toujours un peu plus clair, ayant moi peur que le jeu soit trop sombre. Sauf que peut-être que les devs ont pris en compte ce facteur d'erreur de la part du joueur et déjà ont réévalué la clarté à la hausse. Je n'ai pas joué à Assassin's Creed, mais après m'être ennuyé dans Assassin's Creed 3, Et là, vous m'avez mis sacrément l'eau à la bouche avec Origin. J'y jouerai sûrement quand j'aurai le temps. Et donc, en fait, suite à cet enregistrement la semaine dernière, je me suis permis de faire un léger sondage Twitter. Parce qu'en fait, ça m'avait, je sais pas, cette question de la luminosité m'avait percuté sur Wolfenstein, où on demande de régler pour que le 1 soit à peine visible.
Toujours l'expression à peine. Qu'est-ce que c'est à peine?
Ça m'énerve, c'est à peine visible. Et bien, figure-toi que je me suis senti beaucoup moins seul, parce que le sondage est évidemment représentatif sur Twitter. Toujours. Avec 407 répondants représentant les différentes CSP, évidemment. Donc, en fait, il y a 13% qui le règlent à beaucoup plus clair, 54% à un peu plus clair, 29% à pile poil la luminosité qu'il faut, et enfin 4% plus sombre. Alors ça, je ne comprends pas, ces 4%. Ce qui fait quand même, ça fait 16 répondants, 16 ou 17 répondants qui mettent plus sombre. Je ne comprends pas.
C'est des saboteurs de sondages. Moi, j'aime bien les répondre ne se prononce pas sur les sondages.
Mais en fait, non, ça fait une jolie courbe. Et on voit bien que tout le monde, enfin, en tout cas, la majorité, règle un peu plus clair. Voilà. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je me dis peut-être qu'il y a quelque chose. Bref, on va attaquer avec la Switch, qui est la thématique de cette émission quand même, et pas forcément donc pas les jeux récents dont on a déjà parlé donc la saison dernière de Zelda Breath of the Wild. Il y a deux semaines, on parlait de Super Mario Odyssey, qui est vraiment la grosse sortie de cette fin d'année. Il y en aura d'autres, mais finalement, qu'est-ce qui est important dans une nouvelle console? C'est aussi le catalogue, c'est aussi ce qu'il propose d'une manière générale. Et là, il y a des nouvelles sorties, donc de vieux jeux. Et on va commencer avec L.A. Noire, donc qui connaît une nouvelle adaptation aussi sur Xbox One et aussi sur PlayStation 4.
Mais qui a une version VR aussi.
Une version VR.
Pas de toutes les énigmes, mais de certaines énigmes.
Voilà, petit rappel, c'était en mai 2011. Et donc, on va regarder à quoi ça ressemble et à quoi ça ressemblait.
Earl, a shooting at the 111 Club. Half a dozen shooters, sir. Real professionals.
I'm only gonna warn you once, gentlemen. Stay out of this.
I'm a middleman. I distribute for the LAPD.
Destruction of public property, harassment. Jesus Christ!
You just don't get it, do you?
I think I want him dead.
No good place. Pick up a shovel and a pick on
L.A. Noire, mais 2011. On va faire un petit retour en arrière quand même, parce que c'était quand même une sortie très étrange de L.A. Noire, en fait. On se rappelle du contexte. Donc, sortie éditée par Rockstar, donc voilà, qui est gage de qualité.
Il sortait à peu près un gros jeu par an. Il me semble que l'année d'avant, c'était Red Dead Redemption. Ça sortait à peu près en mars, avril, par là.
Voilà, c'est ça. Il y avait L.A. Noire. On sait que un peu dans ce genre-là. Alors maintenant, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule, parce qu'il n'y a rien qui est sorti depuis GTA V et jusqu'à Red Dead Redemption 2. Ils ont arrêté les sorties un peu en parallèle, mais il y avait Max Payne 3, il y a eu d'autres jeux, il y avait Bully là qui sortait aussi.
Je jouerais bien d'ailleurs sur la Switch, mais moi voilà,
petite parenthèse, mais bref, il y a ce L.A. Noire qui avait une histoire un peu spéciale, parce que c'était pas un développement Rockstar, c'est Team Bondi,
donc
L.A. Noire sort en mai 2011, Team Bondi sort ferme en 2011 à la fin de l'année, donc il y avait été comment qui, en fait, Rockstar a récupéré finalement ce projet-là, qui n'a pas contrôlé le développement en entier, mais les frères Hauser, donc Sam et Dan Hauser, ont fini producteurs de L.A. Noire, mais ils n'avaient pas contrôlé un peu le début. Team Bondi, donc studio australien de Brendan McNamara.
Qui, si je ne me trompe pas, avait travaillé sur The Getaway, sur PS2, qui était une espèce de sous-GTA assez...
dans l'ombre.
Voilà, qui était un peu entre deux chaises, entre le jeu monde ouvert et le pur jeu d'action, un jeu qui savait pas trop où il allait.
Et là, avec L.A. Noire, on est pour le moins dans un jeu qui ne sait pas trop où il va, mais c'était édité par Rockstar, donc en fait on se retrouve monde ouvert, Los Angeles des années 40-50, superbement reconstitué pour l'époque, c'était quelque chose, les images étaient assez folles, et donc forcément il y avait Rockstar derrière, tout le monde, voilà, c'est la sortie de Rockstar. Il y avait vraiment une rumeur comme ça, très très forte autour de ce jeu. Je ne sais pas si tu te souviens de cette époque.
Ouais.
Et là, il sort et il y a quelque chose qui... Il y a un rapport au jeu qui ne passe pas ou qui est mal compris. Qu'est-ce que tu te souviens de
ce... En fait, dans mon souvenir, tout le monde attendait un peu une espèce de GTA dans les années 40 avec un... une ville dans laquelle on pouvait faire plein plein de choses, sauf qu'en fait dans la ville de dans Los Angeles de L.A. Noire, on peut en fait pas faire grand chose. C'est un décor, c'est un décor qu'on traverse pour aller d'un lieu à un autre. Quand on enquête, on joue un policier qui au début est un simple agent, puis va devenir inspecteur, etc., qui a fait la Première Guerre mondiale et voilà.
La deuxième.
Qui est envoyé à un endroit sur une affaire, qui examine un cadavre, qui interroge les témoins, puis on trouve une arme, il va aller à une armurerie pour essayer de savoir.
C'est ça.
On va d'un endroit à un autre, interroger les témoins. Et pour faire ça, on traverse la ville en prenant sa voiture. Et on, bah voilà, c'est juste un lieu qu'on traverse.
On a finalement un jeu d'aventure ultra-dirigiste, ultra-scénarisé. Et ce Los Angeles des années 40-50, comme tu le dis, c'est un décor. C'est-à-dire c'est pour aller d'un point A à un point B. Et on va passer dans les rues de Los Angeles. La ville est morte. Il n'y a pas de vie. Il y a très peu de personnes. Elle est absolument pas visitable, c'est-à-dire que toutes les portes sont fermées, les magasins, les restaurants, enfin sauf exception quand c'est prévu par le scénario, ne servent à rien.
Donc comme dans un GTA, je vais poser la voiture, aller faire un tour, etc. Ça ne sert strictement à rien, sauf à regarder, si on peut regarder cette ville.
C'est ça, et pour le coup, on est assez décontenancé par ce système d'enquête policière qui est basé en plus sur un gameplay très très particulier, enfin qui est un gameplay central, qui est la reconnaissance des émotions
avec le jeu des acteurs qu'on observe pour essayer de deviner s'ils mentent ou s'ils disent la vérité
et qui est un petit peu bancal.
Un petit peu bancal.
Mais alors je voulais le faire, j'ai pas eu le temps, je me souviens plus trop de ce qu'on avait dit à l'époque dans Silence on joue. Je pense qu'on avait eu, on avait dû être un peu critique de cette manière là voilà, tu l'as dit hein, Cole Phelps, en fait il y a trois. C'est aussi très très différent d'un jeu Rockstar, parce qu'un jeu Rockstar, il y a une histoire comme ça, voilà, le principe étant, on le connaît, la quête principale, l'aventure principale, et qui est accompagnée d'aventures secondaires comme ça. Ici, on a quatre aventures principales. C'est-à-dire que Cole Phelps va être dans quatre brigades très différentes à Los Angeles, la circulation, la criminelle, les mœurs et les incendies criminels. Donc c'est quatre scénarios sans pratiquement de lien, mis à part le personnage principal et son background qu'on va découvrir au fur et à mesure. Donc on a cet objet qui est un peu un objet non identifié, voilà. Et donc il reste dans les mémoires comme une grande déception, j'ai l'impression, pour les joueurs.
Oui, mais je pense qu'il va plutôt être revu à la hausse, redécouvert comme ça, hors contexte, en pensant pas que c'est un GTA. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est un rythme. Il y a des séquences d'action un peu de poursuite, on tire un peu avec son arme, mais sinon c'est quand même très très lent. Enfin, on passe en voiture, il y a vraiment un tempo comme ça, il y a une musique un peu jazz assez souvent. Enfin, il y a vraiment quelque chose du film noir des années 50 dans l'ambiance, le récit, il y a quelque chose de James Ellroy. Enfin, voilà, c'est vraiment une ambiance, une histoire dans laquelle on rentre ou pas. Et moi j'ai toujours tendance à penser que tous les jeux sont en fait des jeux de rôle. Et là, c'est un peu ça. C'est vraiment du role-play qu'on fait. C'est-à-dire quand on est dans la voiture, il faut se mettre dans la tête, dans la peau du personnage. C'est-à-dire le personnage...
Il faut être inspecteur dans les années 50 à Los Angeles.
Il ne va pas vouloir sortir de la voiture pour aller grimper sur les immeubles ou taper les gens. Hein, voilà. C'est ça.
Il fait son taf. Cole Phelps, il fait son taf d'inspecteur.
C'est ça qu'on fait aussi. Et c'est ce que je trouve vraiment prenant, quoi. Si on accepte ça comme proposition, c'est...
Oui, et puis alors, bon, il faut voir, hein, c'est mai 2011, donc c'était il y a plus de 6 ans. Ouais. Donc on a eu le temps aussi d'oublier, de... Enfin, après, ça revient vite. Hein. Moi, les premiers contacts, les premières missions, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, cette ruelle sombre, là, avec le flingue à retrouver. Ça revient vite, les différents éléments. Mais il y a un rapport au jeu, tu l'as dit, hein, c'est on le redécouvre avec un œil finalement nouveau, peut-être avec moins d'attente. Et puis avec cet écran, en fait, ce format qui est différent, hein, parce que quand on utilise la console en mode nomade, qui est quand même l'utilisation majeure de la Switch.
De toute façon, la Switch, soit on considère que c'est une portable qu'on peut brancher sur la télé, soit on considère que c'est une console de salon qu'on peut emporter. Pour moi, c'est une portable qu'on peut brancher occasionnellement.
On sera amené à en reparler sur les autres jeux, mais j'ai plutôt tendance à considérer le dock de la Switch comme un périphérique, finalement, de cette console, hein, qui est avant tout un écran portable, un écran nomade. On redécouvre ça, et en fait, comment dire, finalement, d'une part, ça n'a pas si mal vieilli qu'on l'utilise, parce que finalement, quand on est habitué au jeu nomade, mode DS et tout,
oui,
ça,
c'est
se retrouver,
Vita, c'est, enfin, c'est...
se retrouver avec cette 3D finalement qui n'est pas LED.
Ce type d'histoire, c'est sur des portables qu'on joue à Phoenix Wright ou qu'on fait des visual novels sur la PS Vita ou qu'on joue au Professeur Layton. Il y a quelque chose de ça en fait.
Oui,
sauf que
rapport,
là, effectivement,
il y a
ce monde en 3D dans lequel on s'immerge aussi quand même. Quoi.
Et puis avec. Peut-être quelque chose de l'ordre d'une tolérance accrue, parce que moi, quand je l'ai lancé, je me suis rendu compte que j'en attendais non plus un jeu majeur signé Rockstar, mais finalement une honnête série B, en fait. Un côté comme ça où, bah voilà, c'est une série policière, c'est une histoire policière, et puis, finalement, oui, c'est un jeu qui a déjà, voilà, qui a déjà eu sa vie, qui a déjà fait ses preuves, enfin, qui a, voilà, qui a montré ce qu'il voulait montrer. Et puis, bah, on y rejoue comme on jouerait à quelque chose de l'ordre de la série B. Je ne sais pas si c'est ce que ça t'a fait, en fait, dans cette tolérance comme ça, là.
Oui, moi, c'est exactement ça aussi. Et c'est, moi, j'ai aussi toujours un rapport avec. Moi, j'adore les portables. Il y a toujours un rapport d'intimité avec l'objet, le fait que ce ne soit pas projeté, enfin mis sur un grand écran, mais quelque chose dans lequel on va. D'ailleurs, il y a des éléments tactiles, on intervient directement comme ça.
Il y a quelques modifications à la marge. Moi, je n'ai pas trouvé que l'interface tactile soit la plus passionnante de l'univers.
Il y a les Joy-Con aussi qui permettent de la détection de mouvement, mais ça, je n'ai pas essayé. Donc, je ne sais pas trop ce que ça donne. Mais
puis,
enfin, moi, c'est vraiment
pas,
ce rapport de, bah, voilà, de tenir comme ça, en fait, de l'avoir là.
On rentre. Moi, on aurait pu penser comme ça que le monde ouvert, c'était très bien sur une très grande télé, avec les paysages, avec ce genre de choses. Mais en fait, avec ce rapport physique qu'on peut avoir avec la console, avec l'écran, bah, finalement, l'immersion, et on en reparlera parce qu'il y a un très gros morceau aussi dont on va parler dans l'émission, mais l'immersion est totale. Enfin, il y a un truc.
Pour moi, ça a plus à voir avec le fait de tenir un livre ou de tenir une tablette sur laquelle je regarderai une série, quoi, plutôt que d'aller voir un film. Voilà, c'est plus de cet ordre-là. Et le rapport que j'entretiens avec Ellie Noir, c'est ça. Et je pense que ça lui convient bien, en fait, au jeu d'avoir ce rapport-là.
Et puis, en fait, même, je trouve que même ce truc de détection des émotions, dans les interrogatoires. En fait, à l'époque, en 2011, ça avait été un argument marketing. Je ne sais pas si tu en souviens, la motion capture des visages, parce que c'était des acteurs qui l'avaient fait. Et donc, en fait, il avait mis ça en avant, mais avec un bulldozer. C'était.
J'avais l'impression que c'était David Cage qui faisait la campagne marketing. Enfin, voilà.
Oui, il y avait ce côté-là. Regardez, on peut transmettre des émotions. Alors, en plus, à l'époque, du coup, on en attendait tellement que il y avait cette vallée de l'étrange, là, le Uncanny Valley qui jouait à mort. C'est-à-dire, bah oui, c'est des motion capture d'acteurs, mais vos modélisations, elles sont pas humanoïdes, enfin, elles sont pas humaines pour autant. Et donc, du coup, ça donnait un truc un peu bizarre, où en plus, du coup, les moindres signes de mensonges, de doutes, de trucs comme ça, étaient absolument surjoués. Donc,
bah, y a ça souvent, parce que le personnage parle, et puis tout d'un coup, il arrête de parler, et là, il fait des mimiques après.
Oui, oui. Autant à l'époque, ça m'avait assez rebuté. Je me rappelle que j'avais quand même été au bout de Ellie Noir, mais c'est interrogatoires m'avait pas plu du tout, mais parce que ça avait été un noyau de la communication. Et là, finalement, il y a ce côté, encore une fois, série B, c'est que c'est un gameplay, et tu l'as dit, j'y avais pas pensé, mais c'est finalement où on retrouve un truc façon Phoenix Wright, c'est le gameplay d'enquête façon Phoenix Wright, où l'objection de Phoenix Wright, là c'est dire si tu mens, si tu jouais good cop, bad cop, enfin, tous ces petits gameplays qu'il y a dans Elle est Noire rappellent d'autres systèmes de jeux portables. C'est ça. Mmh. Non, c'est...
Ouais.
Voilà, donc ça c'est Elle est Noire, sortie sur Switch. Alors on l'a dit, hein, nouvelle version. Alors j'ai pas essayé les nouvelles versions améliorées, sur 4K, Xbox One et PS4. Finalement, moi, je pense que ça a beaucoup moins d'intérêt.
Ce qu'il faut dire aussi sur la version Switch, c'est que si on a la boîte, il y a un petit bandeau tout moche en haut pour dire qu'il faut sans doute une carte micro SD qui a du gros téléchargement dessus. Et effectivement, quand on croit avoir le jeu sur sa cartouche, mais quand on met la cartouche, après, ça va télécharger un très très gros fichier.
6,8 gigas.
Moi, j'ai vu 13 gigas. Enfin, faudrait qu'on voit
ça.
Moi, j'ai vu 13 gigas et ça s'est mis directement dans la mémoire de la console et pas sur la carte SD. Donc voilà, faut avoir ça, mais en tout cas, c'est un peu, il y a pas mal de jeux Switch qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire que tout le jeu est pas sur la cartouche.
Ouais.
C'est un peu.
Oui, c'est, mais ça, c'est vrai que c'est un souci parce que.
Pour l'instant, ça va, mais si.
Ceux qui ont pris une SD card de 64 gigas pensant avoir de la marge.
J'ai fini ma 128 déjà. J'ai acheté une deuxième, j'ai fini ma première 128.
Mais... C'est ça.
C'est aussi une question pour l'avenir parce que là, on trouve. Si on trouve une Game Boy avec une cartouche de Tetris ou Super Mario Land, on peut y jouer maintenant sans problème. Dans 10 ans, 15 ans, quelqu'un qui trouve une Switch avec la cartouche de L.A. Noire, est-ce que le gros fichier à télécharger sera toujours disponible? C'est pas sûr.
Gros point d'interrogation, c'est vrai.
La cartouche risque de plus servir à grand-chose.
Oh, c'est vrai.
C'est la même chose avec pas mal d'autres jeux. C'est NBA 2K, il me semble qu'il y avait ça aussi, non? Je sais plus.
Après, NBA 2K, vu qu'on... je pense que toi aussi, on l'a téléchargé.
C'est pour ça que j'ai un doute.
Mais on l'a téléchargé parce qu'en fait, il est sorti en version physique mi-octobre. Il était disponible dès début septembre avec la sortie des autres versions. Mais il devait refaire la boîte à cause du transfert de Kyrie.
Des super effets ralentis dans les mouvements alors que le son était déjà fini. Mais ça s'est arrangé depuis.
Le bug, c'était incroyable. Donc, elle est noire qui vient d'arriver sur Switch. On change drastiquement d'univers avec, on va prendre les mots-clés, Mars, démon, enfer, Marines. Donc vous savez de quoi on va parler. On va parler de la version de Doom pour Switch. Everything has clearly gotten out of hand now. But it was worth the risk, I assure you. De la poésie et de la subtilité, c'est ce qui définit Doom, bien sûr. Donc, ce reboot de la licence historique de ID Software, qui est sorti en mai 2016, qui a non seulement rebooté la série, mais rebooté même peut-être le Fast FPS. Donc cette version un peu sous adrénaline pure du FPS, hein, qui est complètement différent des FPS couloirs traditionnels à scénario, qui eux sont dans la branche Half-Life, qui te racontent une histoire et tu dois tirer sur des gens. Non, là, il n'y a pas d'histoire, ou très peu, une petite histoire de scientifique avec un...
On fonctionne plutôt avec ces mots-clés. Les mots-clés que tu as dit, c'est tout ce
qui nous sert. C'est ça, hein, c'est Mars, démon, en marine, sans faire. On est pas mal, on est dans le truc. Alors ce Doom, version portable, ça donne quoi?
C'était un peu un défi, parce que là, L.A. Noire, quand on en parle, c'est un jeu qui est sorti il y a 6 ans, c'est la génération de consoles précédente, on se dit pour la Switch, c'est bon, ça va passer. Ouais. Là, c'était quand même un gros jeu PS4, Xbox One, PC de l'année dernière. Techniquement, il y a forcément des aménagements. On passe de 60 à 30 FPS.
Concession.
Voilà. Il y a quelques moments où le framerate, ça bégaye un petit peu. Moi, j'en ai pas eu trop dans mes parties pour l'instant. Je trouve pas ça trop gênant. Sur le plan technique, moi, j'ai eu par contre un bug sonore plusieurs fois. Où le son, on l'entend plus très bien, faut perdre pour que ça revienne. Bon, c'est moi, ça va, parce que je perds souvent. Mais ça, je pense que ça sera réglé dans une mise à jour. Sinon, graphiquement, c'est un peu moins beau. Ça se remarque plus sur... Enfin, beau. C'est un peu moins... je sais pas si beau est le terme, mais bon, un peu moins impressionnant. Un peu plus flou, un peu plus sale. Mais de toute façon, Doom, il y a un côté sale qui, de toute façon, va plutôt bien. Les concessions sont plus visibles forcément sur un grand écran que sur le petit écran. Mais alors, je trouve que comme ça, petit écran sur la télé, ça me choque pas plus que ça. Mais sur l'écran portable, waouh quoi. Enfin, moi, je retrouve vraiment les sensations du Doom, du Doom sur les grosses consoles avec aussi l'effet portable dont on parlait pour L.A. Noire. Je retrouve les sensations de Doom aussi, du premier Doom aussi, le côté fébrilité, excitation en même temps. Enfin, moi, je suis totalement conquis par ce truc, quoi, en fait. Vraiment.
Ouais. Alors, moi, pour le coup, c'est assez marrant parce qu'on peut parler de cette Switch. On l'a dit tout à l'heure, cette Switch qui est une console nomade avec son périphérique qui permet de la brancher, sur la télévision. Là, pour le coup, je pense que Doom est un jeu pour une demi-Switch. C'est-à-dire que c'est un jeu pour la Switch version nomade. Je l'ai mis sur l'écran de la télé. C'est un problème. Là, pour le coup, il n'est pas fait pour. c'est compliqué quand même. Enfin, après, t'es tolérant, je sais pas, mais pour le coup, parce que pour le coup, là, on l'a déjà vu tourner sur une télévision. Oui. Ouais. Avec une vraie console de salon derrière, même sans aller jusqu'aux nouvelles versions des consoles. Hein, on ne demande pas de Doom en 4K. Mais voilà, là, c'est, franchement, sur une télé, c'est juste pas fait pour. Quoi. Enfin, ce jeu est fait pour la version Nomad. Par contre, on n'a jamais joué à un FPS Nomad avant ça.
Ouais.
Je pense que c'est là... On tient le premier FPS nomade digne de ce nom. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai dû en essayer quelques-uns, même sur Vita, ou je sais même pas si j'en ai essayé un. Si, j'ai dû en essayer un sur 3DS. Là, on a les sensations, on a le truc qui est là, on est dedans. Alors moi, j'ai juste un petit bémol, c'est que quand on commence à écrabouiller de la tête de démons dans le métro aux heures de pointe.
Ouais.
En fait, c'était marrant, c'était hier, hein, j'étais en train de jouer, j'ai dû changer de jeu parce qu'il y a une gamine qui s'est assise à côté de moi et j'étais en train d'exploser des démons et je me suis dit, non, allez, c'est raisonnable.
On va aller cueillir des lunes à la place.
Du coup, j'ai lancé Skyrim et j'ai fait une fatality direct. Ouais. Mais donc, oui, c'est. Je trouve que. Moi, quand j'ai vu la sortie de Doom annoncée sur Switch, je me suis dit, vous êtes sûr? Enfin, est-ce que ça va avec le truc? C'était quand même pas évident, en fait. Mais ils ont réussi. Tu me parlais tout à l'heure, pendant la bande-annonce, du mode en ligne.
J'ai essayé un peu. Bon, je suis très mauvais, mais c'est pour ça que le jeu est vraiment dans l'esprit de Doom, parce que j'étais très mauvais à Doom il y a 20-25 ans déjà. Mais enfin, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu du tout de problèmes pour me connecter, pour avoir des adversaires, ça démarre très vite. Moi, j'ai fait du deathmatch, vraiment du multi de base. Il n'y a pas de problème de baisse de framerate ou rien. Enfin, vraiment, on est tout de suite dedans. Ce qui n'a pas forcément toujours été le cas sur le online des jeux Nintendo. Mais là, vraiment, c'est très naturel. Je trouve que ça marche très bien, justement, sur une portable, en fait. De toute façon, c'est un des avantages de la Switch, c'est-à-dire que de nos jours, pour allumer une console, c'est compliqué en fait. Est-ce qu'on a le bon câble HDMI? Est-ce que le signal 4K va marcher? Enfin voilà, là on appuie sur le bouton, on appuie sur clac, on lance le mode online.
Et puis si on l'a mis juste sur pause, il revient tout de suite, etc. Voilà. Non mais en fait, c'est des petits détails, mais avec cette console, je trouve qu'il y a cette promesse que... Je me souviens d'un commentaire que j'avais lu. Ça s'adressait à moi, je crois, où j'avais été assez dubitatif sur la Switch au moment de son annonce et tout ça. Une fois que vous l'avez en main, ça change. Et parce que on se rend compte que c'est pas juste un objet technologique, ça change le rapport au jeu en fait. Je trouve que il y a ce truc de la console nomade. On connaissait les consoles portables, là il y a de la console nomade. C'est finalement une petite nuance sémantique, mais qui a son importance et qui permet de redéfinir un rapport même au jeu. Le fait de l'allumer et direct, t'es dans un fast FPS dernière génération. Enfin, il y a un côté étrange, enfin, de rapport immédiat comme ça. En plus, je trouve que c'est un jeu qui va très bien avec ce rapport immédiat, en fait. Tu lances, hop, en plus, t'as des zombies et ça marche. Et puis, je trouve que c'est aussi un type de FPS qui s'applique très bien à ces commandes-là. Parce que le fast FPS est un FPS qui se base tout autant sur les mouvements que sur la visée, c'est-à-dire que c'est aussi important de ne pas rester immobile que de bien viser. Et donc, du coup, en fait, c'est assez tolérant sur la visée, c'est-à-dire que si tu n'as pas le démon la première fois, tu l'auras la deuxième, mais tant que tu cours, tu as une chance de t'en sortir, ou que tu sautes. Et du coup, c'est assez. Après, d'après ce que j'ai lu, alors j'ai pas fait le test moi, où la meilleure manière de profiter de Doom serait sur écran nomade avec le pad, le pad pro.
J'ai pas essayé non plus. J'ai essayé le pad pro quand j'ai joué sur l'écran. De toute façon, il est très bon ce pad pro, même si je l'utilise peu aussi. Faut quand même avoir la tête près de l'écran. Donc faut se créer son petit dispositif.
Mais en tout cas, très impressionnant. Et c'est un détail. Voilà, c'est un jeu de 2016 qui sort sur une console de 2017. Et d'un coup, on redéfinit. Il y a un rapport au FPS qui change complètement avec cette immersion comme ça.
C'est un truc nouveau de la Switch. En fait, si on la considère comme une console portable, on a souvent eu des portages de jeux de console de salon sur portable. Mais en général, il y avait... Sur la GBA, par exemple, il y avait des jeux, il y avait Yoshi's Island, Super Mario World, il y avait deux générations en gros par rapport aux consoles de salon. Avec les consoles de Sony, Vita et avant PSP, on descend peut-être à une génération et demie d'écart. Ouais. Là, on est à une génération à peu près ou un peu moins. C'est ça qui est assez.
Demi-génération.
Et c'est ça qui est assez, assez étonnant comme ça. Reste à savoir ce que ça va donner sur Wolfenstein, qui est le prochain portage. Moi, c'est fou parce que je l'ai démarré sur le PS4 et j'accroche pas. Je trouve ça bien côté série Z gonflé qui me plaît pas du tout à Wolfenstein 2. Et je me mets, après avoir joué à Doom, à avoir envie d'y jouer sur Switch, quoi, ce qui est n'importe quoi. C'est fou cette console.
Après, moi, du coup, je l'ai dit la semaine dernière, je rêverais d'un Assassin's Creed Origins là-dessus qui permettrait d'emmener l'Egypte avec soi.
Mais je sais pas. En tout cas, un Assassin's Creed, ce serait. Il pourrait faire des choses.
Oui.
Si on considère que les jeux niveau PS3 360 passent sans problème ou presque sur la Switch,
il y a des choses à faire avec la trilogie Ezio
qui était ressortie, pourrait la sortir là, par exemple.
Par exemple. Bon, après, j'ai peut-être trop joué à l'époque. Je ne sais pas si j'aurais le courage de m'y remettre.
Le Black Flag, je ferais bien le Black Flag.
Du coup, il y a un catalogue potentiel. C'est ça aussi que disent les sorties dont on parle aujourd'hui. C'est qu'on se rend compte avec ces jeux-là et avec les jeux dont on va parler comme Skyrim ou Rocket League qui est un peu différent, mais on se rend compte d'un coup du catalogue potentiel qui est absolument dingo de cette console.
Ouais.
C'est qu'on voit avec d'un coup un jeu d'aventure open world, un fast FPS, et puis tout à l'heure on va parler de ce RPG gigantesque, mais on se dit il y a quelque chose, il y a une possibilité, un horizon absolument dingue qui s'ouvre d'avoir la console ultime de même pas de rétro gaming, on n'est pas sur du rétro gaming, mais de jouer avec 5 ans, 4 ans, 3 ans de retard peut-être, mais à des jeux qu'on a laissé passer à l'époque et dont on va avoir la possibilité de refaire l'expérience. Cette phrase n'est pas française, ne la retentez pas chez vous. Mais voilà, donc ce Doom, c'est ça. Donc, Fast FPS, et voilà, pour le coup, une réussite. Alors, tu m'as fait envie avec ton mode de jeu en réseau.
Dans la série, comme pour Les Noirs, des trucs à télécharger. Là, même si vous achetez Doom en boîte, c'est le mode online qu'il faut télécharger et qui doit faire, je crois, 9 gigas. Donc voilà, prévoyez vos cartes micro SD parce que...
Ah ouais. Ça remet ce que tu disais quand on trouvera des Switch dans 20 ans.
Là, c'est moins gênant parce que en théorie, le online serait mort donc et le solo restera jouable.
Oui.
Mais oui, les Switch dans 20 ans, ça va être...
Ça va être un problème. Mais bon, bref.
Il y a des gens qui vont se débrouiller pour... Enfin, il y aura moyen.
On compte sur vous chez MO5. Allez, vous allez nous faire un serveur de secours pour la Switch dans 20 ans. Allez, là, peut-être... Moi, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre, mais on va regarder quand même quelques images avant. C'est Skyrim. Excusez, alors mes sincères excuses, j'ai voulu trouver une vidéo qui évoquait Skyrim sur la Switch, j'ai trouvé que celle-là. Donc en fait, alors déjà ceux qui nous écoutent se demandent ce qu'ils viennent d'écouter, parce qu'il n'y a pas du tout de son de Skyrim, il y a une chanson comme ça, et on voit en vidéo, pour ceux qui nous voient, donc on voit, ah oui c'est vrai, les amiibos sont compatibles, oui voilà, on peut avoir une skin Zelda.
Ouais, mais je sais pas si Kirby et Yoshi, moi j'ai les amiibos Kirby et Yoshi, je vais les essayer en rentrant, parce que je suis curieux de voir ce que ça peut donner.
Kirby et Yoshi dans Skyrim. Donc jeu, là encore une fois, comme Elle est Noire, sorti en 2011, Bethesda Studios, Todd Howard à la réalisation. Juste pour finir sur les les caractéristiques techniques de ce Skyrim. Il contient les trois extensions officielles hein, de Downguard, Earthfire et Dragonborn, mais pas évidemment, enfin évidemment non, pas évidemment, mais il n'y aura pas de modding sur cette version-là.
C'était la même chose pour Doom, je crois. Doom, il y avait aussi du modding, mais pas dans la version Switch.
Voilà, donc on perd un peu ce côté communautaire. Et puis, juste au niveau... alors, ça, on est plus sur la version d'origine, plus proche de la version d'origine que de la version Enhanced sortie en octobre 2016, il y a un an, hein, pour la Xbox One et la PlayStation 4, donc elle avait connu une version remastered, je crois que elle s'appelait, sauf pour quelques petits trucs, genre la texture de l'eau ou quelques petits détails comme ça qui correspondent à un peu plus à la version remastered. Mais bon, on lance, et là, encore une fois, cet effet absolument dingue, un jeu de 2011, en version portable, ça fait de l'effet quand même.
Ouais. Bon, moi, quand je lance, il y a un problème, c'est que j'aime pas du tout le début de Skyrim. Enfin, le truc où on est prisonnier, où il y a le dragon, tout ça, je l'ai fait trois fois. Je l'ai fait sur la version période 360, puis fin 2016, et là, à nouveau, je déteste ce début. Je sais pas pourquoi ça commence comme ça, et je sais pas pourquoi j'aime pas.
Ah ouais.
Mais Skyrim, moi, j'ai jamais été un fanatique absolu. Je suis jamais allé très très loin dans l'aventure. Et là, je crois que c'est la première version dont je me dis, je vais pouvoir peut-être y jouer longtemps, quoi. Alors que pourtant, j'ai Zelda que j'ai pas fini sur la même console, mais il y a... Voilà, pareil, c'est ce rapport intime à l'image, au monde, mais vraiment un monde immense, mais qu'on a là, tout près, devant les yeux, facilité à entrer, à sortir du jeu, et... Voilà. Moi, à la base, c'est pas spécialement ma culture, le RPG occidental. Ouais. Je suis beaucoup plus attiré par Dragon Quest ou Zelda ou certains Final Fantasy que par les visages comme ça, le côté réaliste, fantastique. Enfin, voilà, c'est beaucoup moins ma tasse de thé à la base. Et là, quand même, je suis content de marcher dans la neige, de regarder le ciel, d'attaquer des loups, d'aller dans des donjons, des caves qui sont pourtant des espèces de couloirs obscurs. Et je prends plaisir à ça, mais vraiment à un niveau... Je disais que j'ai jamais fini Skyrim. Et là, quand je dis que je peux y passer longtemps, c'est pas tiens, je vais finir enfin Skyrim. C'est plutôt tiens, je vais vivre des choses, je vais explorer des endroits, je vais avoir vraiment l'impression d'être quelque part. Voilà, c'est vraiment ce rapport-là au jeu que je découvre en essayant cette version-là.
Il y a un parallèle, mais tu l'as fait toi-même, hein, qui est évident avec Zelda. Moi, c'est alors une sorte de parenté un aspect grandiose, enfin épique dès le départ, par le fait d'avoir, comme tu l'as dit, cet univers, ce monde dans cet écran portable qui est parallèle. Alors moi, c'était la troisième fois que je le faisais, le lancement de Skyrim. Du coup, j'ai choisi un camp, puis j'ai choisi l'autre, puis je suis revenu au premier camp, je crois, quelque chose dans le genre. Ou alors, je ne sais pas si je choisis le même à chaque fois, pensant faire l'inverse de ce que j'ai fait la fois d'avant. Mais bref, il y a un truc avec cet univers-là. Et comme tu le dis, quand on l'a et quand il se lance aussi facilement, une fois qu'il est en veille et il se relance tout de suite, que les temps de chargement sont finalement assez acceptables pour ce jeu-là. Après, forcément, ça fait pas de miracle. Je trouve toujours que les combats de Skyrim sont complètement nazes.
Ouais. Non, mais c'est un jouable. Avec les gâchettes, les trucs comme ça,
c'est pas... Bon, après, c'est un jeu... On n'arrête pas de combattre. C'est fou, hein. Je trouve que c'est peut-être le truc le plus impressionnant avec ce jeu-là. On n'arrête pas de combattre. Le combat est relou comme pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lock. Les ennemis, tu les perds de vue tout le temps. Quand tu joues à la troisième personne, c'est chiant parce que tu as l'impression que c'est mal animé et tout ça. Quand tu joues en FPS, tu sais pas où t'es. Tes camarades de jeu, là, tes alliés ont une intelligence artificielle complètement aux fraises. Donc les combats sont un mauvais moment à passer. Sauf que le reste est tellement grandiose, épique, magnifique, immersif, que on passe ces mauvais moments. Enfin, je sais pas, c'est comme... C'est comme un saut que tu n'arriverais pas à faire dans Mario. Bah, tu fais ton saut et puis tu y arrives. Et puis bah, c'est cool et tu es content parce que tu découvres le reste de l'univers. Les combats dans Skyrim, c'est ça. Sauf qu'il y en a plein, mais tu pardonnes Skyrim à chaque combat, en fait.
Moi, je ne choisis pas un niveau de difficulté trop élevé parce que j'ai pas envie non plus sur ces combats-là. Enfin, voilà.
Mais c'est quelque chose qui m'étonne à chaque fois, cette tolérance que j'ai par rapport à un cœur du gameplay qui ne fonctionne pas.
C'est pas un détail.
C'est pas un détail dans Skyrim, c'est pas dans Elle est Noire. Hein. Elle est Noire, le système de combat n'est pas terrible, mais bon, tu t'en fous, là pour le coup c'est un détail. Mais là c'est. Après, s'il y a le petit problème qui va. Alors après, je sais pas, j'ai pas fouillé assez, je sais pas s'il y a un menu ou un sous-menu qui permet de corriger ça, mais les sous-titres.
Ah non, je croyais que tu allais parler d'autre chose.
Ah ouais, bah tu vas parler d'autre chose, mais les sous-titres sont petits.
Ouais, c'est très petit. Mais il y a aussi la même chose sur Doom, en fait, j'ai trouvé.
Mais ce qui est un problème, voilà, d'ailleurs, sur les télés, on en avait parlé dans Silence on Joue, que même dans les GTA, les sous-titres étaient trop petits, même sur les grandes télés. Donc là, c'est un problème récurrent. Mais je trouve que avoir. Alors, je sais pas si c'est réglable ou il y a peut-être.
Je crois pas.
Non, c'est dommage. Et donc, tu voulais parler
d'un détail, c'est que d'office, l'ouverture des menus pour gérer l'équipement, etc., est mis sur la touche B le saut sur le X. Donc voilà, moi je suis allé très vite inverser ça parce que j'ouvrais ça. Dès que je voulais sauter, j'ouvrais les menus pour. Voilà, ça allait pas du tout.
Ce qui met le jeu sur pause, donc c'est plutôt.
Oui.
C'est plutôt l'inverse qui doit
être. J'étais ravi de voir qu'on pouvait le changer.
Je vais le changer aussi parce que j'arrête pas de galérer avec ça. Après, moi, c'est vrai que j'ai refait tout le début, la rencontre avec le mec en haut de sa citadelle. Enfin, ça reste un émerveillement comme ça réel. Alors après moi ça faisait. Alors j'avais pas joué aux versions remastered, donc j'ai plus de temps. Ça faisait 4 ou 5 ans que j'y avais pas touché, mais je reste complètement fasciné. Et encore une fois, et peut-être plus encore que sur Doom, on vient de le dire et on le répète. Alors on se répète peut-être beaucoup dans cette émission, mais finalement il y a cette thématique de ce que disent les portages sur la console de Nintendo, bah ça dit que il y a tellement d'univers qu'on a envie de voir débarquer sur cette console que on voit que Skyrim ça marche, on a envie. Tu parlais de la collection de RPG japonais qui peuvent potentiellement arriver dessus. Ouais. On n'a pas assez d'une vie pour essayer tout ce qui peut arriver sur la Switch, mais c'est marrant comment c'est pas du portage classique, ça change ton rapport, enfin ça te met peut-être plus dans le jeu, je sais pas.
Je pense, oui. Parce que je pense que c'était beaucoup moins le cas avec les anciens portages de jeux console de salon sur Porta. Enfin, je mentionnais Yoshi's Island, ces trucs comme ça. Je pense que c'était pas le cas, mais il y a quelque chose sur l'immersion, la 3D. Enfin, il y a quelque chose qui est différent d'avoir ce type de jeu sur un écran. Et puis l'écran de la Switch, enfin, la taille est bien. La première fois que j'avais vu, je l'avais trouvé petit. Mais,
Et moi, là, en fait.
Enfin, vraiment, moi, c'est peut-être la meilleure console de tous les temps. Parmi les appareils qu'il y a chez moi, à part le grille-pain et le sèche-cheveux, je vois pas mieux. Et mais vraiment, ça fait des choses sur les jeux qu'on connaissait
et
déjà.
Et tu l'as cité tout à l'heure pour toute autre chose, mais Skyrim, c'est 2011. Red Dead Redemption, c'est 2010.
Ouais, ça pourrait, ça.
Mais ça, il faut. Non, mais c'est pas que ça pourrait.
Mais ça devrait.
Obligatoire. Enfin,
le problème, c'est que je l'aurais bien vu avec une réédition pareille en même temps, 4K, etc., sur les autres consoles, mais ça va se télescoper avec la sortie du 2, sauf si
il est reporté. Non, mais moi, alors après, je sais que je tomberai dedans et que je vais le trouver peut-être potentiellement très très bien. Après, j'attends de voir le 2 pour voir où ils vont. Mais le 1, je le connais. Le 1, je sais qu'il est tellement haut dans mon panthéon des jeux vidéo que. Quand j'ai joué à Skyrim, je me suis dit « Ah ouais, John Marston, viens, arrive, vite, s'il te plaît. » On va aborder dernier élément dans cette émission, dernier jeu abordé, dernier portage abordé dans cette émission, c'est Rocket League, le jeu de Psyonix.
Thank you.
C'est sorti en juillet 2015. C'était le, d'ailleurs, hein, de, selon tous les observateurs, dont nous, enfin, je ne sais pas, mais c'était le jeu de l'été 2015, sans conteste, c'était Rocket League.
Surprise qu'on n'avait pas forcément vu venir.
Qu'on n'avait pas vu venir et qui a tout pris, hein, la PlayStation 4, le PC, enfin c'était... et en plus, un jeu de foot avec des voitures à l'origine. Tant que tu n'y as pas joué, tu n'es pas convaincu. Désolé pour ce choix de vidéo. Encore une fois, je n'avais pas trouvé tellement qui parlait de ce portage sur la Switch, elle est un peu publicitaire celle-là.
En même temps, elle a l'avantage de parler du cross-platform. On peut jouer contre les gens qui ont le jeu sur les consoles ou les PC. Ce qui est...
Voilà, autant dire qu'on ne manque pas de joueurs.
C'est ça surtout. C'est pas spécialement qu'on veut tous qu'on veut jouer avec tout le monde, mais... le nombre de jeux où on galère pour trouver des adversaires, là c'est pas le cas, il y en a tout de suite.
En même temps, Rocket League, je pense que ça, on se doutait que les gens qui l'avaient sur PC ou sur PlayStation 4, qui avaient une Switch, allaient très très vite. Mon collègue Franz Durupt, hein, qui chronique ici de temps en temps, et qui est un fan absolu de Rocket League, je l'ai pris dès le début. D'ailleurs, je pense qu'il a
caché acheté quelque part, parce que je croyais que dès qu'il était question de Rocket League, il surgissait tout le coup. Mais non, c'est ça.
Non, tu peux rentrer. Non, il n'est pas là. Mais je suspecte d'avoir pris la Switch juste parce que Rocket League était prévu dessus. Hein, donc, non, je déconne, il aime trop Nintendo pour ça, mais bref. Jeu de juillet 2015 qui débarque, qui était attendu, enfin, dès le départ, je crois qu'il était sur la line-up de la Switch, il a été très très vite annoncé.
Assez vite, annoncé. Assez vite, justement, ça a paru comme une sorte d'évidence, en fait. Le type de jeu, d'avoir ça sur une portable. Avec le multi sur le même écran, l'accès rapide, enfin voilà, ça paraissait vraiment un jeu conçu pour la Switch.
Premières impressions ?
Ça marche bien en fait, c'est vraiment très très bien. Parce qu'on voit sur l'écran, là, si on est sur un grand écran, on va se rendre compte qu'on va trouver ça moche, l'image.
Encore une fois, on se rapproche de Doom. C'est-à-dire que.
Sur le petit écran, ça.
Après, il y a des gens qui n'ont que la Switch. Donc, ils vont jouer sur leur grand écran. Mais c'est vrai que dès qu'on a une autre console de salon, une vraie console de salon, entre guillemets. J'ai oublié de mettre mon téléphone. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Pardon, excusez-moi. Bon, bref, je ne le referai plus. j'en étais où ? Oui, dès qu'on a une vraie console de salon, il vaut mieux avoir la version PS4 de Rocket League. En plus, on peut jouer avec ses amis sur la Switch.
Il n'y a pas les voitures Mario et Luigi dans ce cas-là. C'est avec la casquette.
Oui, c'est vrai que c'était un des avantages. Des concessions quand même, voilà, parce que il n'y a pas de concession en termes de gameplay. Il tourne en 60 frames par seconde, ce qui est nécessaire pour un jeu comme Rocket League qui est orienté compétition, confrontation, jeu en ligne, voire e-sports. C'est indispensable de garder comme ça un frame rate incontestable et permanent sur la durée de la partie. Donc là, pour le coup, c'est vrai, mais du coup, ils n'ont pas pris de risque. C'est-à-dire que le graphisme, c'est pas trop ça.
C'est pas trop ça, mais c'est pas choquant. De toute façon, on passe pas notre temps à admirer les détails du stade.
Non.
On essaie juste de trouver où est passé ce fichu ballon dans le ciel. Je suis en train d'avouer que je suis aussi mauvais à Rocket League.
Mais t'avais touché X.
Oui, je sais, mais
suivi de ballon. Non, tu joues pas avec le suivi de ballon, en fait.
Non, mais j'ai tendance à confondre la touche du saut et la touche du turbo. Donc, je suis là pour l'instant.
Moi toujours. Mais d'ailleurs, je pense que ils vont trouver un moyen de changer parce que je fais toujours le... C'est un problème. Après, j'y arrive. Mais il faut que je m'échauffe dans le match pour que mes doigts arrivent bien sur un des deux.
Alors, j'en profite pour m'excuser auprès de mes deux partenaires de la partie d'hier qu'on a perdu 13-0. J'ai beaucoup confondu les deux boutons, mais je vais m'améliorer. Je vais faire un effort.
Non, mais pour le coup, c'était très attendu. C'est naturel de voir débarquer Rocket League sur la Switch et ça marche, quoi. Enfin, ça fonctionne bien en jeu en réseau. Après, et même, moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait finalement pas mal avec les bots dans les transports.
Ah oui, ça, j'ai pas essayé.
Et je trouve que j'ai fait une partie avec les bots, vraiment un 2 contre 2 avec bots dans les transports. Et je trouve que ça marche pas. Alors, n'étant pas moi-même très bon, et surtout, en fait, j'avais un peu arrêté de jouer aux alentours de octobre-novembre 2015. Donc en fait, j'ai un an, deux ans de sans Rocket League derrière moi. C'est, ça a été un peu violent les débuts.
Il y en a qui n'ont dû pas arrêter depuis.
Voilà. C'était un peu compliqué de retrouver ses habitudes de saut turbo, de saut renversement, de machin. C'est pas évident, mais ça commence à revenir. Et donc en fait, le fait de pouvoir s'entraîner avec les bottes dans le métro, c'est pas mal. En fait, ça permet de retrouver ses habitudes.
Essayer ça.
Voilà. Qu'est-ce que quoi d'autre,
Balu? Je crois que là aussi, les DLC sont là, en fait, si je me trompe pas. Avec plein de modes de jeu alternatifs que j'ai pas essayé. Donc, du basket, ou des choses comme ça.
Voilà. Et donc là, il fait 4,8 gigas, vu qu'on prend...
Oui, ça c'est raisonnable, cette fois-ci.
Ça, c'est raisonnable. Ouais. Cette fois, c'est raisonnable. Donc, et il y a tout. On n'a donc pas parlé de d'autres portages, Stardew Valley, Rayman Legends, qui sont arrivés aussi.
Il y a les Siberia aussi. J'ai pas encore essayé. Le 1 est sorti, le 2 arrive là.
Donc le 1, hein, parce que le 1 étant le seul qui a un intérêt, mais qui a un bel intérêt, il est bien là.
Il y a aussi pas mal de jeux indés qui sont sortis ailleurs et qui arrivent aussi. Enfin, des choses que j'aimais bien, comme Octodad, Sticky to the Man, il y a Super Meat Boy qui va arriver aussi. Enfin, il y a...
Ce qui est naturel. Mais tu vois, les jeux indés, moi, quand j'ai vu la Switch arriver, je me suis dit, oui, forcément. Les jeux indés, oui, c'est une nouvelle plateforme. Oui. C'est des petits jeux qui vont être dans les stores. C'est facile. Enfin, on suppose que c'est pas trop compliqué. Et en fait, j'attendais la Switch pour être effectivement une plateforme à production indé. Et je ne m'attendais pas à... Alors, même que c'était annoncé dès le départ. Hein, le Skyrim, par exemple, était annoncé dans la vidéo de présentation de la Switch.
Tout le monde perplexe. Tout le monde se disait, c'est vieux. À quoi bon s'il y a déjà Zelda? Enfin, voilà. C'était...
Et là, moi, j'ai découvert quelque chose. Ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai découvert cette potentialité de revivre comme ça des grands, pour le coup, des triple A, des très grands jeux des années passées. Et je trouve qu'on va, on en attend, on va, moi, j'en attends beaucoup pour 2018. Je sais pas, j'ai pas regardé le calendrier, ça se trouve, il y en a déjà de prévu. Et je vais faire un appel, je vais faire une pétition sur change.org pour Red Dead Redemption.
Surtout pour tous les... Alors bon, c'est pas forcément très simple de porter les jeux. On sait qu'il y a des studios qui ont du mal. Là, il y a le jeu Rime, un jeu indé qui vient de sortir sur Switch. J'ai pas encore essayé la version, mais apparemment, techniquement, c'est pas ça. Il y a d'autres indés qui avaient fait Yooka-Laylee, cette espèce de jeu inspiré des jeux N64, qui est annoncé sur Switch depuis des mois et des mois. Ils ont pas l'air d'y arriver. Il y a Ubisoft qui promet Steep, son jeu de ski. Là, maintenant, il n'y a pas de date sur Switch. Il y a la version spéciale Jeux Olympiques qui sort sur les autres consoles. La Switch n'est pas concernée. Apparemment, ils ont des problèmes de framerate. Enfin, voilà, c'est pas forcément simple non plus de porter ces jeux-là. Malgré tout, pour tous les éditeurs qui ont un peu pris le train, la Switch en retard, en s'attendant pas au succès, c'est quand même plus rapide de porter un jeu de 2012, 13 ou 15 que de concevoir un gros jeu de zéro.
Oui,
donc il y a plein de choses qu'on pourrait voir arriver
et
qui seraient dans l'intérêt de tout le monde, y compris des éditeurs, je pense.
Non, mais bien sûr. Et c'est, je pense que le nombre de productions comme ça qui peuvent avoir une deuxième vie, là, pour le coup, sans problème et à un prix moins cher je sais pas. Je trouve qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Du coup, en fait, autant la Wii, ce qui est marrant, c'est autant la Wii U, on avait très vite des doutes parce que on savait très bien que seul Nintendo, parce que les ventes étaient décevantes et qu'il y a besoin d'avoir un cercle vertueux pour que des éditeurs tiers arrivent sur les consoles de Nintendo, parce qu'on sait très bien que les productions de Nintendo captent énormément d'acheteurs. Donc la Wii U, on a très vite eu un doute parce que on s'est bien rendu compte qu'il y allait avoir que Nintendo qui allait que Nintendo qui allait alimenter cette console, ce qui s'est passé d'ailleurs. C'était ça, mis à part quelques exceptions. Tandis que là, quelques mois après la sortie, on sait qu'il y a un potentiel pour qu'il y ait un vrai catalogue de jeux qui sont pas des vieilleries en plus. Skyrim, on l'a peut-être pas assez dit, parce qu'on l'a dit, je pense, mais Skyrim, même si ça a 6 ans, quand on y joue sur Switch, c'est pas une vieillerie. On joue pas à un jeu rétro. Et ça, pour le coup, c'est super prometteur. Et je pense que les 30 millions de consoles qui sont prévues pour être produites en 2018, y a des chances qu'elles trouvent preneur.
Surtout que là, maintenant, on parle... Enfin, les analyses prévoient qu'elles se vendent plus que la Wii.
Voilà.
Donc, ça...
Gros potentiel quand même. Surprend, hein. Elle surprend, cette Switch.
Il y a plein de jeux que je verrais bien arriver, mais même chez Nintendo, ailleurs, enfin du Bayonetta Collection, moi je verrais bien. Là, il y a Mario Galaxy, le problème c'est que c'est la détection de mouvement, mais s'il y avait un moyen d'adapter, de faire ça autrement, d'avoir un Mario Galaxy Collection, Mario Sunshine HD, des choses comme ça.
Mais oui. Allez, eh ben on en sera amené à en reparler en tout cas de cette console, la Switch de Nintendo. Eh bien, c'est fini pour cette semaine concernant les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper. Et quand tu ne joues pas, tu fais quoi, Erwan ?
Bah, j'ai un peu du mal à trouver beaucoup de temps avec ma fille. Je pensais que quand on avait un enfant, c'était les 6 premiers mois, les 12 premiers mois qui étaient un peu compliqués. Je crois que c'est les 20 premières années.
Voilà, mais voilà. C'est ça. Donc, mais du enfin, coup, je sais pas, moi, je connais les 5 premières, je te dis, ça va pas se calmer.
Du coup, lire c'est compliqué, voir des films c'est compliqué. Alors des fois, j'écoute de la musique un petit peu. Là, j'ai pas mal écouté une vieillerie aussi. C'est un peu dans la logique des vieilleries qui reviennent, mais là, c'est plus vieux. C'est The Queen is Dead, l'album des Smiths, qui est considéré par certains comme leur meilleur album. Je dirais, oui, c'est leur meilleur album à égalité avec les autres. Et qui est ressorti, donc, je pense, pour le 31e anniversaire, je ne sais pas si ça se fête comme ça, dans une version où il y a trois disques, si on peut dire, sauf si on l'achète sur iTunes, voilà, c'est plus ou moins des disques, mais il y a une version remasterisée, il y a des démos, il y a un live, et voilà, moi, je me replonge là-dedans. Ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais jeune, moche et que j'avais pas d'amis. Rien à voir avec maintenant où je suis vieux, sublime et j'ai une Switch. Et voilà, ça me remet là-dedans. Et dedans, il y a ma chanson préférée, There is a Light That Never Goes Out, en trois versions. Donc, voilà, ah, c'est oui. Fabuleux pour moi. Ah, je la chanterais bien pour vous faire une quatrième version, mais je pense que ce serait pas lui faire honneur. Donc voilà, donc, je réécoute The Queen is Dead.
D'accord. Et moi, j'ai vu la saison 3 de Broadchurch, donc cette série britannique qui se passe, je ne sais pas où, pas au Pays de Galles, enfin sur la côte anglaise avec un policier, alors qu'il y a un... J'ai plus le nom de l'acteur là, ce monsieur Doctor Who qu'on a vu dans Jessica Jones aussi.
Les gens voient sa tête.
Oui, voilà, vous voyez sa tête. Hein, donc, la saison 1 avait été très marquante, la saison 2 un peu moins. La saison 3 est intéressante, ne fait que 8 épisodes et qui est une saison finalement. Alors. J'ai trouvé vraiment, vraiment très intéressante de par sa thématique, c'est-à-dire qu'on a une série policière qui fait toute une saison sur une affaire de viol. Ce qui est intéressant, en fait, cette saison résonne beaucoup avec l'actualité, en fait, je trouve. D'une part, parce que voilà, c'est une affaire de viol. Généralement, en dessous du meurtre, entre guillemets, on fait pas une saison complète sur une série policière. Là, ils ont pris le temps. Et en fait, on se rend compte que c'est une saison sur la domination masculine, sur les rapports entre les hommes et les femmes. C'est très bien traité. L'affaire en elle-même, voilà, bon, ça tient la route, une enquête, des choses comme ça. Mais c'est tous les personnages, les rapports entre les gens, la description qui en est faite. Et le héros lui-même n'est pas épargné sur le thème. Et donc, ouais, j'étais surpris de trouver ça intéressant, en fait, à ce point-là. Donc, voilà, Broadchurch, saison 3. C'est encore, je crois, en replay sur France 2 Replay, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle plus Plus, je crois.
Non, je crois qu'ils ont arrêté. C'est non ridicule.
C'est ça. Merci, Erwan, d'être passé. Et j'espère qu'on va te revoir dans pas trop longtemps. Et non, nous,
dans 6 à 12 mois, je pense, comme d'habitude.
Non, avant. Allez, je vais te harceler par mail, promis. Et donc, nous, on se retrouve très bientôt sur nos lives, sur libération.fr et sur les internets. Ciao.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.